Bonsoir à tous, amis auditeurs, vous êtes bien sur le Libre Journal des Artisans de Benoît Aguelon, naturellement, habituellement assisté de Benoît Duchâtelet qui fait diverses activités et des photos très sympathiques en Afrique du Sud pendant ses vacances. Donc je reste fidèle au poste et je vous annonce que nous préparons des émissions pour les prochaines émissions le samedi 15 août, jour de la fête nationale, et vendredi 21 août, toujours de 19h30 à 21h. Alors, vous pouvez réagir, comme l'a dit la réalisatrice, sur courtoisie@rc.fr. Alors aujourd'hui, j'ai plaisir et l'honneur d'avoir via les réseaux téléphoniques et internet Stéphanie Duboc de Milky Blue Factory. Alors Milky MILKY Blue comme le bleu en anglais, BLUE Factory FACTORY pour les gens qui sont fâchés avec l'anglais. On comprendra parfaitement sur Radio Courtoisie. Stéphanie Duboc m'a été recommandée par une ancienne invitée et a un savoir-faire particulier, la sculpture sur cire. Donc nous allons passer 7h30 avec Stéphanie pour qu'elle nous explique un petit peu tout ceci. Stéphanie, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, vous faites de la sculpture sur cire, mannequin sur cire. Expliquez-nous en quelques mots d'introduction un petit peu ce que ça signifie, parce que la cire, l'usage commun de la cire, en fait, est la bougie, mais il y a d'autres applications.
Alors oui, bien sûr, la cire est un matériau très particulier. Il faut savoir que ce matériau a été beaucoup utilisé dans le 19e siècle, à l'époque où il n'y avait pas la photographie, on ne pouvait pas représenter le corps humain. Donc ce matériau permettait de représenter les figures humaines, donc dans le domaine liturgique des églises, mais aussi les mannequins de vitrine et aussi dans le domaine médical. Donc pourquoi ? Parce qu'il pouvait retranscrire la peau. Donc c'est un matériau qui était utilisé beaucoup à l'époque, comme on peut assimiler le matériau du silicone ou de la résine dans notre ère contemporaine.
C'est sa plasticité qui fait ressembler à la peau, la cire ?
Alors oui, par sa translucidité, puisque la peau par nature est translucide, comme le silicone, comme je vous en ai parlé. Et donc, ça permet donc s'assimiler à la peau et s'inscrire dans le domaine du réalisme. Et aussi, à l'époque, aujourd'hui, dans l'art contemporain, on peut encore trouver des artistes qui utilisent ce matériau. Mais à l'époque, voilà, on pouvait assimiler cela à la résine de l'époque ou le silicone.
D'accord. Est-ce que c'était une sorte de matériau du pauvre pour notamment les statues à statuaire
Alors, je ne dirais pas tant ça, puisque la cire amène un savoir-faire particulier, parce que la cire, pour la mettre en forme, on a besoin de la mettre à l'état liquide. Donc, ça nécessite un certain process de température, de mise en couleur pour retranscrire la peau et donc ce que l'on souhaite représenter. Donc c'est pas forcément évident, mais c'est plutôt un matériau traditionnel comme le plâtre ou le bois. On va dire que c'est un matériau naturel parce qu'on parle de cire d'abeille.
C'est de la cire d'abeille. Alors justement, c'était la prochaine question que j'allais vous poser. Le matériau est de la cire d'abeille, donc en fait un matériau naturel. Il n'y a pas de modification, il n'y a pas de préparation particulière.
Oui, bien entendu, puisque là, il faut remettre dans le contexte, la cire est utilisée à destination de sculptures qui vont en général être suffisamment pérennes pour qu'on puisse les stabiliser, les structurer. Donc, on utilise des durcisseurs. qui permettent de rendre la cire moins malléable, moins molle, et permet de la stabiliser un peu plus qu'elle ne l'est.
D'accord, et notamment la sensibilité à la chaleur.
Alors oui.
Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières de la cire?
Alors, la cire, par nature, est un matériau très fragile, qui peut subir l'effet du temps, des différences climatiques, de l'hygrométrie, des variations importantes de température. Donc, c'est un matériau qui va bouger dans le temps, qui va pouvoir se fissurer, perdre de la souplesse dans le temps, qui va réagir avec son environnement. Donc oui, c'est un matériau qui est très fragile et qu'il se doit d'être conservé. Donc c'est l'approche Camille Kibloux aujourd'hui, puisque je m'inscris dans ma société. La Camille Kibloux s'inscrit dans la conservation des œuvres d'art sculpturales et spécifiquement dans le domaine de la cire.
D'accord. Alors, effectivement, lors de nos différentes émissions, on trouve des artisans, les vrais artisans, en fait, travaillent sur des matières naturelles, matières nobles. Sur la cire d'abeille, est-ce qu'il y a, c'est une matière première qui est quand même qui doit être relativement chère ou assez exceptionnelle parce que il en faut.
Oui, vous avez raison. C'est un matériau, on peut dire, qui a un certain prix, mais pour autant qui peut être accessible, puisqu'on peut le trouver sur le marché aisément.
D'accord. Et il y a des caractéristiques particulières. Alors, vous faites la sculpture. Vous fournissez auprès de fournisseurs de cire d'abeille.
Est-ce que vous pouvez me répéter
Oui.
votre
Euh,
question?
vous,
J'ai pas.
vous avez des fournisseurs particuliers en cire d'abeille?
Oui, c'est ça. Nous travaillons avec des fournisseurs et selon les projets que l'on a, on peut s'en servir pour la restauration, la création. Tout dépend des projets.
D'accord. Et je reste un petit peu sur la matière. Quel volume, combien d'abeilles il faut pour faire 1 kilo de cire d'abeille?
Ah ça, je ne pourrais pas rentrer dans ce type d'anecdote, mais par exemple, sur une tête en cire creuse à l'échelle humaine, à l'échelle 1, on va pouvoir parler de 5 à 7 kilos de cire.
D'accord, donc finalement, même creuse, c'est quand même un matériau relativement lourd.
Oui,
Oui.
tout à fait. Tout à
D'accord.
fait.
Et il y a une différence avec la cire de bougie?
Ah oui, donc il y a deux familles de cire qui existent. Donc la première est celle de la cire d'abeille, donc dit naturelle, et l'autre s'assimile plus à une cire à base de pétrole qui peut s'assimiler à la bougie, à la paraffine.
D'accord, donc c'est pas de la paraffine en fait.
Non.
C'est pas la paraffine telle qu'on la connaît. Est-ce qu'elle a les mêmes propriétés que la cire de pétrole qui sert aussi à faire des bougies?
La cire, vous
La cire
voulez dire?
d'abeille, oui, la cire d'abeille.
Mais disons, c'est un matériau qui est différent au niveau de sa couleur et elle peut être assez stable dans le temps. Je n'ai pas ce recul avec la paraffine. Il faut savoir que Mille Kibloux, nous restaurons des pièces en cire qui peuvent remonter jusqu'au 19e siècle. Et j'en ai vu beaucoup si elles étaient conservées dans des bonnes conditions, donc des conditions de conservation optimum,
Oui.
eh bien, on pouvait avoir des cires qui étaient vraiment en très bon état.
Les conditions de conservation sont en fonction, comme vous l'avez dit, d'hygrométrie,
Oui.
de la température.
Oui, alors en fait, la cire est sensible aux variations de température, d'hygrométrie également, mais aussi il faut faire attention et je dirais surtout aux grandes différences de température qui peuvent s'opérer sur ce matériau, mais aussi, et j'ai restauré bon nombre d'objets en cire, de sculptures en cire, qui avaient subi l'effet de la lumière directe du soleil. C'est-à-dire une œuvre qui va être exposée derrière une glace, derrière une vitre, en plein été, ça fait énormément de dégâts. Donc elle peut fondre, elle peut se ramollir et donc perdre toutes ses formes, toute sa structure. Et donc là, c'est là où je peux intervenir souvent.
D'accord. Et à l'inverse, ça peut se craqueler en termes
Oui.
de, comment dire, de manque d'humidité, de d'obscurité et tout ça. Enfin,
Oui,
c'est un
là
équilibre.
j'ai, oui, j'ai restauré le duplicata de Rousseau. Son propriétaire collectionneur, c'est une pièce qui était très ancienne de l'époque, et il l'avait mis à côté de son radiateur. Et l'hiver arrivant, eh bien, la cire n'a pas tenu le choc et cette grosse variation l'a fait assécher déjà d'emblée. C'était pas très fort, mais ça a été suffisant pour faire en sorte que la sculpture a craquelé sur toute sa surface. Et en
D'accord.
plus, avec l'effet du temps, elle perd de son élasticité. On parle de cire ancienne, donc qui ont si se sont asséchées avec le temps.
Il y a des méthodes de, il y a des techniques qui ont évolué avec le temps de fabrication de la cire ou.
Écoutez, de par mon expertise, mes connaissances, excusez-moi, rappelez-moi votre question, j'ai perdu le truc.
Oui, comment
Je
dire,
voudrais être sûr de bien répondre.
est-ce qu'il y a une évolution des techniques, notamment au niveau
Ah
de la
oui.
fabrication de la cire?
Comme je vous le disais, j'ai une expertise par rapport à un savoir-faire
Oui.
assez traditionnel, donc je m'évertue à pouvoir perpétuer ces techniques, de me rendre le plus fidèle possible mes interventions aux techniques traditionnelles. Donc, je vous dirais, oui, il peut y avoir des petites variations pour faire les couleurs, pour faire la mise en peinture de la cire, quand on travaille sur des personnages réalistes. Mais je dirais, à partir du moment où c'est un matériau traditionnel, eh bien, on va dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de différence, puisqu'il faut vraiment respecter ce matériau qui est authentique
Oui.
et de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas mélanger tout type de matériau avec. Enfin,
Oui.
après, ça devient l'expérimentation et même si on peut s'y adonner dans le domaine artistique, ce n'est pas ma démarche quand je suis sur des projets de restauration et de conservation.
D'accord, c'est un matériau vivant en fait.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui vous a amené, alors on va maintenant parler de vous, Stéphanie Duboc de Milky Blue Factory, sur le Libre Journal des Artisans de Radio Courtoisie. Donc qu'est-ce qui vous a amené à la sculpture sur cire, à rénovation?
Alors, moi, il faut savoir, j'ai travaillé 17 ans dans un grand musée de cire, ce qui m'a permis de connaître les techniques traditionnelles et d'avoir une vue globale sur l'expertise que l'on devait avoir sur ce matériau. Et non seulement donc sur ce matériau, mais également tout ce qui constitue son environnement. À l'époque du 19e, il y avait beaucoup de personnages faits en cire qui se devaient d'être présentés historiquement, enfin qui devaient présenter une histoire, donc des personnages historiques que l'on peut trouver dans les musées et donc où la cire était omniprésente avec l'ajout de cheveux, des implantations des cheveux, avec des costumes, avec comment dire, différentes techniques au niveau des mannequins qui, eux, étaient d'autant plus durs et donc qui n'étaient pas faits en cire. Et donc, j'ai une vision aujourd'hui, une expertise, enfin, j'ai une vision globale et une expertise sur la cire en ayant eu cette expérience dans ces musées.
D'accord, c'est quel musée, c'est
Je ne peux pas me permettre
d'accord.
de vous transmettre le nom, malheureusement, puisque là, aujourd'hui, je parle au nom de la société Milky
Oui,
Blue.
tout à fait.
Mais donc, en ayant cette expérience au niveau de la technique, j'ai moi-même donc créé ma société Milky Blue, qui œuvre dans la fabrication, la création et la restauration d'œuvres d'art sculpturales dans le domaine de l'art contemporain. Et donc, j'ai pu utiliser par la suite, au même titre que la résine et les silicones, parce que j'ai une formation en art appliqué dans les matériaux de synthèse. Et donc, avec le temps, j'ai pu utiliser donc différents matériaux, mais la cire principalement, pour faire le travailler dans l'hyperréalisme pour les artistes qui me demandaient des œuvres hyperréalistes.
D'accord, ce sont bien souvent des artistes contemporains qui demandent quelque chose de vraiment figuratif.
De réaliste, oui,
de
voilà.
Réaliste, d'accord, très bien. Vous avez parlé effectivement de résine de silicone. Ce sont aujourd'hui des produits de substitution à la cire?
Oui, voilà, tout à fait, qui ont différentes propriétés, qui peuvent s'assimiler à la cire, mais qui sont différents en termes de dureté, en termes de translucidité, et aussi selon le format que l'on souhaite, on ne peut plus utiliser la cire. Milky Blue travaille sur des œuvres monumentales, parfois,
d'accord,
dans le domaine public. Là, on ne va pas utiliser de la cire.
Oui, d'accord. Mais ça nécessite une architecture intérieure, interne. Par exemple, on va parler des santons que vous êtes à Monaco, là.
Oui, tout
sur
à fait.
Les santons de la crèche de la cathédrale de Monaco. Y a une structure intérieure pour les sculptures en cire, où la cire se soutient d'elle-même.
Alors, comment répondre à votre question? La première des choses, c'est que je vais vous dire que en général, les parties en cire sont les parties visibles d'un mannequin historique qui a une représentation humaine. On va dire que les mains, les têtes et les pieds sont faits dans ce matériau. Par contre, en général, les mannequins sont structurés différemment. Ils ont d'autres matériaux, souvent plus durs. Donc, à l'époque, on utilisait de la colle à peau, de la colle à lapin, des colles animales. Donc, ça structurait avec du papier mâché les corps. Là, pour le projet de Monaco, ils ont été faits en paille, structurés de métal, mais les corps étaient faits en paille. Donc ça, c'est un peu original. C'est la première fois que j'ai rencontré cette technique, puisque c'est des personnages qui datent de 1888. Donc, pour répondre à votre question, oui, la cire doit être structurée de par son matériau, au point de vue interne, mais par contre, on ne peut pas faire un corps entier en cire. Donc, elle a besoin de s'ajouter à des corps plus durs, plus structurés, parce qu'on parle d'1m30, les statues en cire, les santons en cire de Monaco font 1m30, donc ils ont besoin d'être structurés par rapport à l'entièreté du col et du corps, et la cire vient se pluguer sur sur ce corps et pour alléger un petit peu le poids de l'ensemble.
D'accord, c'est quelque chose de particulier, c'est un chantier exceptionnel que vous avez là.
Oui, en plus, quand on est restauratrice comme moi, même si on a une expertise dans ce matériau, on rencontre toujours des projets, des objets, des sculptures qui ont une technicité différente. Il n'y a rien à faire. Même si on parle de cire de 19e, moi j'ai l'habitude, il faut savoir que j'ai restauré dans bon nombre d'églises des personnages en cire liturgique. Et là, c'est la première fois que je rencontrais des personnages qui ont été confectionnés avec de la paille, avec des fibres végétales et du chanvre. Tout était fait avec ces matériaux-là. Donc les gens m'ont été désarticulés, puisque ces personnages n'ont jamais été restaurés depuis l'époque. Donc, on a dû les restructurer tout en respectant les matériaux faits en végétal.
D'accord.
Oui.
Qui eux-mêmes ont fait objet d'une restauration?
Oui, on a dû les restructurer.
D'accord.
pour que les personnages puissent tenir debout, ce qui n'était pas le cas quand je les ai rencontrés, quand je les ai découverts.
Alors, quelle est cette histoire?
C'est-à-dire...
L'histoire de ces santons, ils ont été redécouverts, je crois, dans un entrepôt à Nice.
Oui. Oui.
Et puis y a eu une volonté du prince de
Alors, il
l'archevêque.
faut savoir que ces santons sont emblématiques par rapport à la principauté de Monaco et ont une valeur patrimoniale fondamentale pour la cathédrale de Monaco. Le père Daniel, qui a toujours œuvré pour conserver les œuvres artistiques et spirituelles de la cathédrale, a fait appel à Milky Blue pour restaurer ses personnages en cire. Ça fait une dizaine d'années que je me suis entretenue avec lui. Donc nous avions eu un contact assez bref à l'époque, mais il se trouve que quelques années après, il me rappelle parce que le père Daniel a obtenu le mécénat d'un Américain qui s'est marié à la cathédrale et donc il a voulu donc comment dire, faire naître ce projet en investissant sur ce projet.
D'accord, c'est une très belle histoire justement de mécénat privé à destination du public sur un objet
Oui,
patrimonial.
c'est ça. Et donc Milky Blue a œuvré pour rendre possible ce projet parce que à la fois il y avait donc c'était des personnages en cire. Le père Daniel a cherché quelqu'un qui pouvait faire ce type d'intervention, mais également il y avait la partie costume, il y avait la partie sculpture, il y avait aussi les cheveux. Donc on a fait appel à différents corps de métier. Donc souvent lié à Milky Blue, il faut savoir tout un réseau d'artisans d'art qui tous des compétences différentes. Et donc pour ce projet, ils ont œuvré pour vraiment maximiser la restauration.
D'accord, donc vous êtes à la fois maître d'œuvre,
Oui.
enfin oui, c'est ça, maître d'œuvre et artisan sur une partie d'un projet.
Oui, vous avez tout à fait compris. Donc, Milky Blue, nous travaillons en général avec différentes équipes. Et là, dans ce projet, nous avons fait appel à un atelier de costumes. Donc, Milky Blue a supervisé, a encadré donc le projet parce qu'il y avait de la création à faire. Donc, par rapport au cahier des charges du père Daniel et aussi pour restituer l'aspect historique, on devait être fidèle pour la reconstitution des matériaux, pour la reconstitution des matières et des couleurs. Donc là, j'ai choisi vraiment tous ces éléments pour être en adéquation avec les costumes anciens, pour être en adéquation avec l'ensemble des techniques anciennes, parce qu'on là, on parle de tissus qui ont une certaine noblesse. Donc on se devait de pouvoir rendre le même état de ressemblance par rapport aux personnages de l'époque.
D'accord, il n'y a pas eu d'innovation particulière de faire un costume contemporain ou de faire quelque chose en particulier. Le cahier des charges était de retrouver l'état originel des santons.
Oui, c'est ça. En fait, il faut toujours faire En fait, comment expliquer? En fait, quand on a un projet de restauration, à partir du moment où les éléments sont trop anciens, trop abîmés et que certains éléments sont complètement disparus, eh bien, il y a toujours une part de création. Donc, il faut respecter un maximum les éléments, de façon à pouvoir respecter donc toutes ces techniques qui ont été faites à l'époque, mais il y a toujours un moment où il faut faire de la création. Donc oui, il faut s'adapter, il y a une certaine recherche. Là, j'ai fait beaucoup de recherches sur les matières, sur la création de costumes, à quoi ressemble Melchior, à quoi ressemble Balthazar. Donc j'ai fait de la recherche au niveau des différentes couleurs, au niveau historique, à quoi ressemblaient ces costumes à l'époque. Quelle est la tenue de Jésus? Dans quelle matière doit-elle est-elle faite? Au même titre que les vêtements de la Vierge Marie. Donc, oui, il a fallu faire de la recherche et aller jusqu'à dans. On ne peut pas parler d'innovation, mais on peut parler de création. Et le père Daniel, je savais qu'il avait une exigence sur les matières, donc j'ai suivi de A à Z tout le projet pour avoir, répondre à ses exigences et répondre au point de vue liturgique, historique, parce que c'était important. On parle de la cathédrale
Oui,
de
c'est ça,
Monaco.
oui.
Ce sont des personnages de 1888, vous vous rendez compte?
Ah oui, et c'est une iconographie particulière avec, comment dire, une documentation particulière. Alors, vous êtes appuyé sur quoi? Sur des photographies,
Oui,
sur des estampes, sur
déjà j'ai consulté le père qui m'a. J'ai échangé bon nombre de fois sur ses exigences, sur les documents qu'il m'a transmis. Mais j'ai aussi travaillé aussi avec différentes. J'ai été dans des archives à la bibliothèque Fornay et j'ai aussi discuté avec des experts dans le domaine, qu'est-ce qui se faisait à l'époque. Donc oui, c'était une recherche à effectuer dans ce domaine. Et aussi au niveau des, pardon, et aussi au niveau des coiffures historiques.
Ah oui, il y a aussi les coiffures historiques, oui, il y a les vêtements historiques.
Les vêtements, il y a les coiffures,
Tels
il
qu'on
y a la
voyait les rois
sculpture.
mages au 19e siècle.
Comment?
Tels qu'on voyait, par exemple, les rois mages au 19e siècle. En fait,
Oui.
c'était la manière dont on voit au 19e siècle la nativité.
Oui, et puis ce qui était intéressant, c'était de pouvoir échanger avec le père Daniel, avec ses collaborateurs, surtout quand on a amené les personnages, d'avoir leur retour, où était placé le roi mage par rapport à l'histoire de l'enfant Jésus qui venait d'être né. Donc chaque personnage a un rôle dédié, et donc ce qui était intéressant, c'est de pouvoir apposer ces personnages dans leur environnement et d'avoir aussi des experts dans la cathédrale qui nous ont donné leur retour. Et ça, c'était très intéressant puisque entre mes premiers échanges avec le père Daniel et l'installation dans la cathédrale, parce que lui-même a redécouvert les santons, et donc ça a donné lieu à un échange très très enrichissant. Et je vais vous donner une petite anecdote. C'est que quand une dame collaboratrice du père a vu la Vierge Marie, elle a tout de suite fait la comparaison avec l'œuvre de Bréa, qui est une œuvre picturale dans la cathédrale, où les femmes étaient représentées avec des glacis de couleur sur la peau, qui étaient complètement identiques à la façon dont j'avais peint la Vierge Marie. Donc effectivement, elle a fait cette comparaison. Moi, je n'avais pas considéré cette approche technique à ce point, mais elle a fait la comparaison in situ, et ça, c'était très intéressant de confronter la sculpture et la peinture qui avaient quasiment, on va dire, les mêmes techniques de glacis bleuté et rougeâtre, des très délicats, des visages.
Alors, il y a la matière, quels éléments, notamment dans ce projet, avaient disparu que vous avez dû refaire en entier?
On va dire que les mains avaient. Alors, la cire étant un matériau fragile, la première des choses qui cassent sur un personnage en cire, c'est les doigts. Les doigts des mains. Donc, il y avait des mains qui avaient perdu complètement tous les doigts. Et on a dû les resculpter. Et donc, on est parti, on a quand même nos références par notre expertise, par notre expérience. Je parle d'anatomie.
Oui.
Donc, on a dû resculpter, donc c'est le cas des doigts du petit Jésus, on a dû resculpter l'ensemble des doigts.
D'accord. Et c'est donc vous avez resculpté à partir de la cire et puis après mis en couleur.
Voilà.
C'est ça
Alors,
le
nous avons
processus?
sculpté les doigts en cire
Oui.
par rapport à des références qu'on pouvait avoir, parce que c'est un répertoire de formes à l'époque. Les cires ont une anatomie vraiment particulière. Donc, nous avons resculpté avec de la plastiline les doigts. Et
Oui.
ensuite, moi, j'ai fait le moule. De cette main, enfin, là, en l'occurrence c'était un bras, donc j'ai fait le moule de l'ensemble avec du silicone, et donc dans ce moule, donc qui est un moule creux, hein, comme un
Oui.
moule d'un moule à chocolat, et donc à l'intérieur, j'ai coulé la cire avec la même couleur de la cire d'époque, où je me suis approchée un maximum. Et ensuite, je suis venue le solidariser sur le corps du petit Jésus. Et ensuite, donc je l'ai structuré. Et ensuite, j'ai fait de la peinture en glacis dessus.
D'accord. Et quand vous dites solidariser avec, c'est avec l'ossature interne de, c'est avec
Oui.
l'ossature interne. D'accord.
Oui, parce qu'il y a différentes couches hein, dans un corps en cire. Enfin, là, du coup, c'est un petit format, donc on est plutôt sur une cire qui est pleine. Et donc, à l'intérieur, évidemment, il y a des structures que l'on doit respecter, que l'on doit optimiser. À partir du moment où on solidarise un élément, il faut vraiment bien structurer l'ensemble par soudure.
D'accord. En fait,
Par chauve.
oui, la sculpture, pour moi, c'était prendre un ciseau, un type ciseau à bois, et puis sortir une forme d'une forme géométrique, en fait. Mais là,
Alors,
en
oui.
fait, c'est autre chose.
Alors
C'est
là,
la fonderie, là.
il faut savoir que dans la sculpture, il y a deux grandes familles. La première est celle de la sculpture sur dite taille directe. Donc, on va dire que l'on part sur une structure pleine, comme le bois, le marbre, et avec des outils, on va venir creuser la surface. C'est le cas aussi sur des matériaux un peu plus contemporains, donc le polystyrène, la mousse polyuréthane. Et donc là, on va faire révéler la forme dans une grande masse.
Oui.
Là, en l'occurrence, c'est l'inverse. Donc la deuxième grande famille, c'est agir à partir d'une structure. Donc si vous connaissez Giacometti, lui, il travaille comme ça. Ça veut dire qu'il va faire une structure en métal très fine et dessus, il va venir y ajouter sa terre par boulette, par petite touche de volume qui va créer un volume important. Et la cire, dans ce cas, a été utilisée goutte à goutte pour la sculpture du petit Jésus. Donc j'ai fait la sculpture avec de la cire à l'état liquide, goutte à goutte, pour faire la création du volume.
D'accord. Donc c'est un travail de précision, c'est le travail du
Oui.
volume, le goutte à goutte, c'est très particulier. Et en fait, vous avez sculpté moule et ensuite moulé la chose.
Votre réflexion est très intéressante parce que j'ai utilisé deux techniques pour le petit Jésus. J'ai fait un mixte. À la fois, j'ai fait de la sculpture goutte à goutte, mais j'ai également fait un moule pour pouvoir couler coulait de la cire parce que l'autre bras était vraiment en très mauvais état. Et donc, on a dû faire tout l'ensemble. Quand on fait une restauration, s'il y a peu d'incidence, j'ai fait de la sculpture très délicate au goutte à goutte sur les trois doigts d'une de ses mains. Par contre, il y avait un doigt qui était un bras qui sur lequel les doigts étaient complètement, quasiment inexistants. Donc j'ai dû les resculpter, faire le moule et faire le tirage sur l'autre bras. Donc
Ah
c'était
oui.
un mixte de techniques différentes. À partir du moment où on peut sculpter avec de la cire goutte à goutte, oui, c'est possible, mais quand la pièce est trop endommagée, il faut
Oui.
faire une sculpture avec d'autres matériaux, faire un moule d'ensemble et à partir de ce moule, on coule une cire qui permet de reconstituer le bras entier parce qu'il a été trop endommagé. J'espère que j'ai été assez claire et que je ne vous ai pas perdu.
Non, non, non. A priori, alors on a une réaction d'un auditeur, a priori, qui demande ça. Très belle émission, apaisante et pleine de sens, en s'étant confus aux valeurs inversées. Voilà. Donc, merci à cet auditeur. Effectivement, elle est apaisante. C'est assez fascinant parce que deux techniques pour pour un même centron. Comment dire, c'est vous découvrez au fur et à mesure les défis techniques par rapport à un cahier des charges.
Oui, parce que dans mon domaine, moi, je travaille dans le moulage d'art et au sein du moulage, on rencontre vite la sculpture. C'est la sculpture et le moulage souvent évoluent de cœur et parfois on va opter pour faire la sculpture et parfois on va opter pour faire le moulage à partir du moment où il y a beaucoup de dégâts, il faut refaire la création entièrement et le moulage nous permet d'utiliser différents matériaux et donc la cire. Enfin,
Oui.
c'est par rapport à ce projet, le moulage a été au cœur du process, vraiment. Donc parfois on faisait de la sculpture, parfois on faisait du moulage. On a cessé de faire des va-et-vient entre ces deux techniques. Pourquoi? Parce que nous avons eu 10 centons avec, ils avaient tous les mains endommagées. Donc 10 paires
Oui.
de mains fois 2, oui, ça fait 20, ça fait, enfin, avec autant de doigts.
Oui.
Et on a croisé les techniques, nous avons eu de cesse de croiser les techniques. Ça a été vraiment un vrai challenge.
D'accord. Alors, j'ai perdu un petit peu mon fil. J'avais une question sur justement ce moulage d'art. Le point de liquéfaction. Vous travaillez, votre outil principal, c'est la chaleur.
Oui.
Oui. Et le point de liquéfaction de la cire est relativement haut, relativement bas, parce que
Alors,
bon.
tout dépend des projets. Mais après, il faudrait faire un stage à une vraie formation pour que je puisse vous donner tous les éléments, parce qu'il y a quand même des secrets d'atelier.
Oui, ça fait partie des secrets d'atelier.
Oui.
D'accord.
Mais oui, il faut être vigilant pour respecter certaines tempér une température selon les formats. Donc après, je dirais, c'est à chaque fois du sur-mesure, donc il faut veiller à des températures différentes selon les formats.
D'accord. Ça dépend vraiment des projets. Est-ce que la structure globale des centrons de Monaco en paille a été une contrainte, une opportunité, a rendu les choses plus faciles, plus difficiles?
Vous voulez dire en termes de contraintes techniques
Oui, contrainte technique.
Disons, comme je vous l'ai dit, il a fallu ajuster nos techniques avec les techniques anciennes, donc que je connaissais déjà par mon expertise, mais on a toujours des surprises. Donc, il a fallu que s'adapter et d'ajuster notre savoir-faire. Parce que quand j'ai découvert ces personnages, j'étais loin de considérer qu'ils étaient à ce point déstructurés, à ce point abîmés, fissurés, puisqu'ils étaient recouverts de couches textiles infinies. Ils avaient mis beaucoup de vêtements pour, ils avaient comme emmailloté la structure de paille. Et donc, je ne pouvais pas m'imaginer à quel point l'ensemble était en mauvais état.
D'accord, donc vous avez dû démonter, explorer et
Oui.
ensuite restaurer et restaurer
Oui.
un petit peu pas à pas
C'est ça.
en guise de découverte.
Voilà, on a dû s'adapter pas à pas avec les différentes étapes. Enfin, c'est ce qui se passe en général, hein, pour bon nombre de restaurations que j'ai faites, que j'ai restaurées notamment à à Douvres, la Délivrande,
Oui.
à la chapelle Lalique, Sainte-Florida. Et ça a été le même process, hein. Quand on a une sculpture qui arrive à notre atelier, on a beau l'avoir vue dans un état général et superficiel, quand on se penche dessus, on a toujours
Des
des
surprises.
découvertes qui sont plus ou moins agréables.
D'accord, ça vous a pris pour les 10 centons, par centon, ça a pris combien de temps à peu près?
Nous avons œuvré 4 mois sur ce projet. Il
4
y a
mois.
eu, il y a eu plusieurs intervenants,
Oui.
et donc ce qui fait que le travail était assez lourd, puisque les doigts étaient vraiment beaucoup cassés, les mains, les visages fissurés, les yeux en verre qui étaient parfois partis des visages. Il a fallu les redresser. L'implantation des cheveux. Donc, vous avez pris connaissance donc du travail de sculpture que Milky Blue a dû faire, mais aussi du moulage, sans parler des caisses de transport qui les ont transportées, qu'il a fallu refaire
Oui.
pour optimiser la sécurité dans les transports et leur conservation, la préservation dans le temps. Donc, des caisses adaptées. On a fait appel à des spécialistes qui ont l'habitude d'emballer des œuvres d'art. Et donc, ça a été aussi un beau challenge pour eux parce que c'est la première fois qu'ils travaillaient sur ce projet.
Ah oui, d'accord. On a beaucoup d'auditeurs qui sont à l'écoute. Ils sont peut-être sans doute en vacances et c'est très bien. Merci. Vous pouvez toujours nous envoyer nos messages à courtoisie@rc.fr. Et je rappelle que vous êtes sur le libre journal des artisans de Benoît Aguelon. Et j'accueille Stéphanie Duboc, qui est restaurateur comment dire, sculpteur de mannequins de cire. Alors, Stéphanie, j'ai une question. Alors, bonsoir à tous. J'associe les statues de cire à l'Italie du Sud et aux crèches napolitaines. Le musée Grévin ou équivalent fait-il appel à vous? Et le masque funéraire en cire existe-t-il toujours? Belle émission. Vous avez un grand succès.
Là, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer sur le musée Grévin, mais il est vrai que dans l'Italie du Sud, et notamment dans les crèches napolitaines, il y a des personnages en cire. Alors, je n'ai jamais eu l'expérience de restaurer ces personnages, mais je dirais qu'il y a sans doute une influence sur les personnages de la cathédrale de Monaco qui ont été créés. Parce que c'est la première fois que je voyais ces techniques, notamment de la fabrication de corps avec de la paille et de la fibre végétale, et qui apparemment est significative de cette région. Dans mes
D'accord.
recherches, parce qu'il a fallu que je me renseigne un petit peu, il semblerait qu'il y ait à l'époque des échanges entre différentes églises des santons en cire,
D'accord.
avec des techniques différentes. Et c'est pourquoi que c'est peut-être comment dire, le pourquoi que j'ai de ces personnages pour lesquels je n'avais jamais rencontré en France des corps faits de cette façon.
D'accord. Oui, bah de toute façon, de façon un petit peu, de façon un petit peu gaillarde et puis un peu rigolote, Monaco de toute manière est une ancienne colonie de pirates génois, donc forcément l'influence italienne est existante.
Tout à fait.
Voilà. Alors,
Et
on va prendre quelques instants pour un bobino. Vous êtes sur Radio Courtoisie, le libre journal des artisans. Donc une petite pause très rapide. À tout de suite.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois. 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 seul euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016, Paris.
Voilà, vous êtes de nouveau. Vous êtes de nouveau, Stéphanie. Vous êtes de nouveau en ligne sur le libre journal des artisans de Benoît Aguelon, assisté par Benoît Duchâtelet, qui n'est pas là. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Stéphanie Duboc de Mickey Blue Factory, sculpteur et restaurateur de mannequins sur cire. Donc, on a beaucoup évoqué effectivement Monaco. Un auditeur nous a envoyé une grosse perche à un beau lien sur les crèches napolitaines et l'Italie du Sud. Alors effectivement, c'est typiquement la pratique des santons, c'est quelque chose du Sud. Et effectivement, les crèches napolitaines sont particulièrement connues mondialement. Je crois même qu'elles font partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Mais je ne saurais être tout à fait franc, tout à fait exact concernant ça. Il y a eu, on parlait effectivement des influences. Vous avez différentes écoles de manière de travailler. Bon, alors on a vu que il y avait la sculpture en taille directe et la sculpture façon Giacometti avec comment dire avec un moule.
Oui.
Donc est-ce que vous avez eu est-ce qu'il y a une manière est-ce qu'il y a une manière française, est-ce qu'il y a une manière italienne, est-ce qu'il y a une manière sicilienne de travailler ceci?
Là, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais eu l'occasion de travailler pour l'Italie.
D'accord.
Donc, moi, je suis. J'ai travaillé souvent, la plupart du temps en France, dans des églises françaises, et donc avec cette technique que je connais bien. Mais en Italie, je souhaite bien la découvrir pour pouvoir aller plus loin, parce que c'est toujours enrichissant de pouvoir aller au-delà de ce que l'on connaît. Et donc, je vais m'apprêter à aller dans ce sens dans les mois qui suivent.
D'accord, de toute façon, vous n'êtes pas loin, vous êtes à la frontière.
Tout à fait, tout à fait. Mais il faut savoir que la cire est un matériau ancien qui est très peu utilisé. Nous sommes vraiment dans la niche des niches. Et souvent, c'est assez. Comment dire on est un peu dans un circuit fermé qui n'est pas accessible à tout le monde, qui n'est pas visible par tous. Souvent, on trouve des cires dans les châteaux. Les cires représentent des personnalités de l'époque qui appartiennent à la famille, donc qu'ils ont préservé chez eux depuis des centaines d'années. Et donc, c'est resté un peu vraiment confidentiel, assez rare. Donc souvent, c'est des œuvres exceptionnelles. qui se laissent découvrir avec le temps. Et donc, elles sont quasiment inaccessibles. Et ce qui crée un petit peu de mystère dans ce matériau, parce que ce matériau amène à voir des objets rares, dont l'histoire est assez importante, la valeur patrimoniale souvent est importante. Et donc souvent, mon expérience m'a amenée à rencontrer ce type d'œuvre incroyable. Et je suis quelqu'un qui est passionné par la cire. Et sur le territoire français, il y a beaucoup de choses.
D'accord. Alors, comment reconnaître la cire d'autres matériaux? Je pense notamment à la porcelaine. On a encore un message d'auditeur. Je pense notamment à la porcelaine, au plâtre. Enfin, le plâtre, c'est relativement rugueux. Mais au silicone, vous avez parlé d'autres matériaux de substitution. Il y a un toucher particulier?
Alors, comme je vous l'ai dit, la cire est un matériau naturel et par nature translucide. Donc, la première des choses quand on voit la cire, c'est qu'on sent cette transparence, la lumière qui va vers la matière. Et donc, c'est comme s'il y avait ce côté un peu vivant, de vibration. Et donc, si l'on compare le plâtre, comme vous le dites si bien, qui est une matière rugueuse, opaque, minérale, là, on est sur complètement autre chose. Nous sommes sur un matériau qui est quand même chaud, qui est un peu mou, dans lequel c'est pour ça qu'on le choisit pour implanter les cheveux. Après, entre là où vous pouvez me poser une colle, ouais, c'est de me dire c'est quoi la différence entre le silicone qui est translucide, qu'on peut rendre translucide, ouais, transparent, translucide. Excusez-moi, on rentre dans le terme technique. Je me permets d'aller dans ce sens parce que vous m'avez l'air très investi dans le domaine technique. Là, ça me cause souci parce que le silicone qui a la couleur peau peut avoir la même translucidité et le même aspect que la cire. Par exemple, j'ai travaillé pour Rick Owens. J'ai fait ses sculptures dans le monde entier, donc Miami, Tokyo. Et quand j'ai fait la sculpture de Rick Owens à Tokyo, il y avait une partie en cire et une partie en silicone que l'on a dû créer par rapport à ses intentions. Un monstre déformé, humanoïde, enfin, avec des poils. Enfin, c'est une œuvre qui est magistrale, non pas parce que je l'ai faite, mais c'est parce que visuellement, elle a un impact très fort. Et donc j'ai dû faire le silicone.
Oui.
De la même couleur que la cire, parce que le haut était en cire et le bas était en silicone. Je rentre pas dans les détails de l'histoire de cette sculpture, mais on a créé la partie en silicone. Eh bien, j'ai reproduit exactement la même matière avec le silicone sur une base de cire, parce qu'on parlait de son corps, hein, parce que lui, il aime se représenter dans ses boutiques. Voilà, c'est comme ça, c'est un artiste, c'est un fashion designer, il aime ça. Ouais. Donc, on a fait une sculpture de 2,5 mètres de hauteur et personne ne voyait la différence. Personne.
D'accord.
J'ai passé trois jours à faire la colorimétrie du silicone pour ressembler à la cire. Il n'y avait aucune différence visuelle jusqu'au moment où quelqu'un a pris une photo et me dit « Ah, Stéphanie, c'est pas la même matière ». Parce que l'objectif, la lumière artificielle ou je ne sais quoi avec le flash a rendu différent, les matières. Alors qu'ils étaient toutes les deux translucides de la même couleur, mais le fait de l'avoir pris avec une certaine lumière et avec un appareil, par le filtre d'un appareil numérique, eh bien, ça a fait la différence, enfin. Je l'entends. Une différence qui était... Je ne sais pas si quelqu'un de lambda aurait pu le voir, mais là, par contre, c'est difficile de faire la différence entre un silicone couleur peau et la cire.
Sauf par passage par appareil photo.
Oui. Ouais. Enfin, je vous parle de mon expérience.
Oui, oui. Mais c'est fascinant parce que moi, ça me parle lors de nos discussions préliminaires. Je vous avais dit que j'étais artisan tailleur de costumes. Et
Oui.
c'est pour ça que je vous ai parlé du toucher de la cire. Parce que finalement, en fait, le cerveau, même, c'est même commun à tous les artisans, le cerveau réside aussi beaucoup dans le toucher et dans la manière dont, dont la matière est rendue au toucher, est sensible à la lumière, évolue aussi en fonction des conditions, des conditions de lumière, d'hygrométrie et tout ça.
Oui.
Donc, oui, c'était pas vraiment une question.
Oui.
Oui, dites-moi.
Oui, on parle de matière. Donc, les matières sont réagissent différemment avec la lumière, ont beaucoup de différences de par leur appartenance minérale, végétale et bon, quand on travaille le granit ou le marbre, j'imagine, voilà, c'est deux matériaux différents, mais
Est-ce que...
on est vraiment dans la zone du sensible, donc on est vraiment
Ouais.
dans l'artistique, si on parle dans ce luxe de détails.
Oui, c'est ça.
Mais chez Milky Blue, par exemple, la matière est très importante et on va très loin pour la définition de la matière, la définition de la couleur, les subtilités des glacis. Oui, là, c'est ma passion, je dirais.
D'accord. Alors, avant de vous poser la question, d'où vous vient cette passion? J'avais une question. Est-ce qu'il y a un sens à la cire? Comment dire? Par exemple, une pièce de viande, il y a un sens à découper. Un tissu, il y a un droit fil et un biais. Une pierre, il y a des veines. Il y a un sens un petit peu à respecter. Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que ça, c'est un état liquide, donc je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de sens, non?
Oui, je vous rejoins. Tout simplement parce que quand on rend un matériau sur une monobase, à savoir vous avez un matériau à l'état solide, vous le mettez à l'état liquide par chauffe et vous le remettez à l'état solide par refroidissement, structurellement c'est la même chose et il n'y a pas de sens puisqu'on le rend à l'état liquide. Puisqu'il est indéfiniment remodelable à souhait, comme le cuivre, comme le métal. Donc, non, il n'y a pas de sens quand on travaille dessus.
D'accord. Alors bon, je sens que c'est un métier passion. Je sens que c'est un métier passion. D'où vous vient cette passion?
déjà, moi,
C'est la partie psychanalyse.
Depuis très jeune, moi, parfois, enfin, la vie peut m'ennuyer, la vie courante, quotidienne. Et depuis toute jeune, j'ai toujours rêvé l'art, rêvé ma vie dans l'art. Et à l'âge de 15 ans, je me suis spécialisée dans les arts appliqués. Donc, pas l'art qui pouvait partir dans tous les sens, où je pouvais avoir la prétention d'être artiste seule au monde. Non, pas du tout.
Oui,
Moi, ce
artiste
qui
maudit,
m'intéresse,
quoi.
c'est... Oui, pas du tout. Moi, j'avais besoin d'avoir la dimension artistique dans la vie, l'art appliqué à la vie, l'art appliqué à une architecture, un vêtement, à une image, un textile ou... Peu importe, peu m'importait. Ce qui m'intéressait, c'est de sublimer, de comprendre la vie sous l'angle de l'art et je pouvais me déployer dans ce sens. Donc, j'ai fait une école d'art appliqué et j'ai continué. Donc, entre l'âge de 15 ans et 10 ans, 15 ans et 18 ans, j'ai fait un bac en art appliqué. Et après, je me suis spécialisée à Paris dans un diplôme de métier d'art dans le domaine de la sculpture en matériaux de synthèse. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les objets nus qui pouvaient être créés dans le théâtre, au cinéma, de voir les coulisses, les choses un peu cachées, m'intéressaient tout particulièrement. Mais à l'époque, je ne savais pas où j'allais. Et je me suis spécialisée après dans le temps, à savoir j'ai eu une passion pour la matière dans ODMA. Donc j'ai fait Olivier de Serres et j'ai commencé à connaître les techniques de moulage, les techniques de sculpture en application dans les grands formats, les différents matériaux qui pouvaient ouvrir les voies de la création. Et là, j'ai commencé vraiment à rentrer dans la fabrication par la matière, donc de sculpture. Et j'ai commencé à Paris avec des clients, enfin, en étant salariée tout d'abord dans l'événementiel, travailler pour les parcs d'attractions, faire des sculptures et des décors dans les parcs d'attractions. Et après, j'ai créé ma société pour le théâtre, pour faire des travailler dans l'art, dans le domaine de la sculpture. Et je me suis spécialisée avec Milky Blue dans l'art contemporain pour les artistes, pour les institutions publiques, les fondations, les galeries, où j'ai exercé donc la création d'œuvres, la fabrication et la restauration d'œuvres d'art. Voilà.
D'accord.
Mon parcours.
Alors, on a une question, mais je crois qu'on y a déjà répondu. Les automates anciens sont-ils aussi en cire ? Et quels sont les ennemis de la poupée de cire ? Alors, l'auditeur parle de l'humidité. On a parlé d'humidité, effectivement. On a parlé d'ensoleillement. Et il pose la question sur les insectes.
Alors, pour répondre à la première des questions, je n'ai jamais restauré des pièces d'automates.
D'accord.
Qu'on peut assimiler l'espace au domaine forain ou...
Oui. Ou des curiosités du 18e siècle, des automates, les premiers robots, on va dire, un petit peu.
Non, pas du tout.
Le mécanisme au 18e siècle, c'était peut-être plutôt la porcelaine.
Parce que vous comprenez que la cire étant un matériau fragile, c'est plutôt lié aux mannequins de vitrine.
Oui.
Les représentations artistiques de certaines personnalités dans le domaine liturgique. On va dire que la cire, elle est sous vitrine, elle bouge pas trop, elle est derrière une vitrine, elle représente un...
Elle est sédentaire.
Oui, elle a plutôt une approche... oui, plutôt historique.
D'accord. Historique et liturgique, muséal.
Voilà.
Milky Blue Factory. Alors, on va parler de Milky Blue Factory. En fait, vous êtes pas seulement artisan, vous êtes maître d'œuvre, on l'a dit. Vous avez une approche à 360 degrés, en fait.
Oui, tout à fait. Par la nature des différents projets que l'on m'a confiés, effectivement... Milky Blue a œuvré sur bon nombre de projets très différents les uns des autres, mais toujours avec un fil rouge. Nous travaillons en général dans le sur-mesure, mais nous œuvrons sur des œuvres à la fois qui peuvent être donc destinées aux galeries, mais aussi destinées dans le domaine public. Donc on peut travailler sur des œuvres monumentales. Donc, on est sur du grand format, qui est une autre logique, mais tout est un même point commun. Ce sont des œuvres qui sont amenées à être donc à durer dans le temps, pour lesquelles nous avons dû avoir une expertise, pour lesquelles nous avons dû mettre en application différentes compétences, et toujours avec la même volonté de créer des œuvres artistiques d'exception qu'on ne peut pas faire en deux fois, si vous voulez.
D'accord.
Sauf si on passe par le moulage. Mais c'est toujours quelque chose d'un peu spécial quand on fait appel à nous. Richard Di Rosa, par exemple, qui est un artiste pour lequel Milky Blue travaille depuis sa création quasiment, à la fois nous demande des œuvres, de recréer des œuvres en plusieurs exemplaires par voie de moulage, mais aussi nous a confié une sculpture monumentale où on a dû gérer toute une équipe d'intervenants à l'échelle nationale. Et donc là, on va jusqu'à gérer les projets dans leur ensemble, sourcer des intervenants, sourcer des techniciens, des compétences différentes. Parfois, c'est un vrai casse-tête, parce que rien n'existe pour faire cette sculpture, mais nous, notre challenge, c'est de pouvoir rendre possible l'impossible.
Oui.
Et voilà, c'est notre grand. Ça fait partie de notre ADN.
C'est du savoir-faire parce que finalement, notamment, je reviens sur les santons. Je pense que c'est quelque chose qui est emblématique de votre savoir-faire. Vous avez fait appel donc à des costumiers, à votre savoir-faire proche, à votre savoir-faire, votre cœur de savoir-faire, mais aussi à, j'imagine, à des perruquiers pour refaire les.
Oui.
Pour refaire
les cheveux.
Les cheveux.
Pour refaire les cheveux comme on le faisait à l'époque.
D'accord. Et donc, en fait, on vous appelle, on fait appel à vous, on vous dit voilà, j'ai une esquisse, je suis un artiste international. J'ai une esquisse et vous réalisez l'esquisse en vrai, en 3D et c'est l'œuvre de l'artiste international.
Voilà, en fait, on peut fabriquer les œuvres avec un cahier des charges bien défini,
oui.
Comme le fait Richard Di Rosa. Il nous apporte son prototype, il nous apporte ses codes couleurs. Donc, nous avons tout le répertoire de formes. Nous dupliquons, évidemment, avec une sensibilité artistique. Mais là, nous sommes dans la fabrication.
Ouais.
Quand il s'agit de création d'œuvres, donc ce qui est le cas de Rick Owens,
oui.
Il nous a donné une esquisse,
d'accord.
Une idée du format.
Ouais.
Et on a dû sourcer les matériaux, créer la sculpture. Et là, ça a été vraiment une création à part entière, même si c'est lui le parrain, c'est lui l'artiste.
Oui.
Ça, il est incontestable que c'est lui qui a fait la création. Mais nous avons fait la création 3D, puisque vous savez, comme moi, c'est un fashion designer, c'est un styliste. Donc, il n'a pas du tout l'expertise dans le domaine de la sculpture. Donc là, c'est un travail de collaboration où souvent on arrive à presque à la lisière de la co-création. Donc, Milky Blue, dans ce sens, est amené à créer des œuvres à part entière dans son domaine d'expertise en collaboration avec ses 10 artistes. Donc, c'est tout à fait intéressant parce qu'à chaque fois, le cas de figure est différent. Et voilà, nous devons à chaque fois nous adapter.
Oui. Finalement, en fait, les artistes contemporains ne sont pas des faiseurs.
Non, je ne dirais pas ça, puisqu'ils sont toujours dans les concepts. Mais oui. Parfois, quand il ne s'agit pas de leur domaine
de prédilection,
c'est là où nous intervenons. Quand ils n'ont pas l'habitude de travailler en 3D, parce que c'est des dessinateurs, comme le cas de Winschluss pour la Galerie Valois, ou quand ce n'est pas des artistes qui ont l'habitude de travailler en grand format, où oui. Ils ont besoin d'avoir une expertise particulière, ou parce que le chantier va prendre trop de temps, donc ils vont sous-traiter. Donc là, c'est là où Milky Blue intervient. Là, pour le cas de Richard Di Rosa, pour son œuvre sculpturale à Fougères, nous avons fait une sculpture de 4 mètres sur 2 mètres et demi, Alfred. Et donc là, ça nécessitait la fabrication d'une œuvre en taille polystyrène avec des composites qui ont structuré l'ensemble parce que ça allait dans le domaine public,
d'accord.
En face d'une médiathèque,
oui.
À côté du McDonald's et de l'arrêt de bus, avec que des jeunes autour et des ados qui pouvaient se suspendre sur cette sculpture.
Oui.
Là, il a fallu faire appel à un cabinet d'ingénierie, il a fallu donc structurer avec les composites maximiser donc la structure avec les matériaux, avec la structure interne en métal. Donc là, oui, les artistes collaborent, enfin, nous collaborons avec les artistes, mais évidemment qu'ils savent fabriquer. Mais il y a certains qui ne savent pas réaliser en 3D ou d'autres qui ont besoin de soutien parce que c'est du grand format. Tous les cas de figure sont différents, mais nous sommes là pour justement définir notre zone d'intervention sur ces 10 projets. Et c'est ça qui est très passionnant chez Milky Blue.
D'accord. Quelle est la part entre la restauration et la création, ou tout au moins la réalisation d'un cahier des charges à partir de rien?
Alors, vous voulez dire la différence entre fabrication et...
Non, la part entre... Parce que je pense que les auditeurs font la part entre la restauration de l'ancien, oui, et la création.
C'est quoi la différence quand on a un projet de restauration où on s'arrête, si j'ai bien compris?
La répartition, est-ce que vous faites plus de restauration ou plus de création?
Chez Milky Blue?
Oui.
Ah, merci pour cette précision.
Pardon.
Ma passion des matériaux m'a amenée à la création. Ma passion pour l'art m'a amenée à la création. Donc ça, c'était indéniable dans mon développement, surtout par rapport au début. Milky Blue existe depuis 2015. Donc nous avons travaillé vraiment au tout début dans la création. Mmh. Mais en ayant une expertise dans la matière, nous avons évolué dans la restauration et après, par recommandation, ça s'est fait tout seul. Et aujourd'hui, nous intervenons à la fois dans la création et la restauration. Il y a des va-et-vient, sachant que des artistes pour lesquels je travaille, qui sont dans la création, font appel à moi sur des œuvres qu'ils ont à restaurer pour lesquelles j'ai collaboré, vous voyez. D'accord. Donc c'est toujours des va-et-vient quand il s'agit d'artistes d'art contemporain que je connais, qui me connaissent, que j'ai fabriqué les œuvres. Donc il y a toujours un va-et-vient.
Mmh.
Donc sur les œuvres plus anciennes, on va faire appel à moi que pour la restauration. Ça dépend. Ça dépend. Il y a vraiment des va-et-vient.
D'accord.
Surtout sur les œuvres que je crée depuis 2008, hein, quand j'ai commencé mon activité.
Oui.
Donc, il m'arrive d'intervenir sur les pièces que j'ai créées.
D'accord. Vous avez une activité en propre, de création propre ?
Comme vous l'avez compris, je suis passionnée par la matière. Donc, j'ai créé une matériothèque.
Ah oui.
Une matériothèque qui met en avant les matériaux que j'adore, pour lesquels j'ai eu des coups de cœur, qui m'ont fait aussi évoluer techniquement. Donc je parle des résines biosourcées, je parle des matériaux en fibres végétales qui peuvent s'assimiler aux matériaux de fibres de verre, que l'on peut utiliser dans le marché industriel. Donc, j'ai voulu mettre en avant pour les artistes, pour mes clients, pour la création, cette matériothèque qui met en avant ma sensibilité. Donc, je dirais, non, je ne suis pas une artiste dans le sens où j'expose en galerie, mais les artistes savent pourquoi ils viennent chez Milky Blue, parce qu'ils savent que nous avons une prédilection pour la matière, la création de la matière. Et donc là, j'ai tout un panel et une richesse qui permet d'échanger, d'avancer dans la création, d'avoir des échanges intéressants pour pouvoir faire naître les œuvres d'art.
D'accord. En fait, vous proposez à des artistes comme Owens, Di Rosa, des alternatives ou des possibilités en fonction des contraintes ou tout au moins du projet qu'ils ont et qu'ils souhaitent vous confier.
Tout à fait. Et ce qui m'a amené un jour à avoir une commande de Renault, où nous avons travaillé sur la concept car EZ-Pod, qui a été exposé en 2024 à Viva Technologies. Donc là, nous avons fait un travail, nous avons répondu à une demande de recherche fondamentale de R&D dans le domaine des tissus de bambou, dans le domaine des tissus de jute, des tissus de chanvre qui ont permis de faire l'habitacle de cette voiture connectée.
D'accord.
Donc là, c'était de la recherche fondamentale parce que notre matériothèque nous a permis aussi d'ouvrir nos portes au département design de R&D dans le domaine industriel.
D'accord. Oui, je connaissais les tissus en bambou. Dans mes références de tissus, effectivement, j'ai quelques liasses de tissus en bambou. Où c'est un toucher particulier, c'est presque un mélange laine lin soie, mais c'est relativement sec, c'est un peu sec.
Oui, c'est ça. Alors voilà, vous me parlez de tissu, mais moi je vous parle de renfort de bambou que l'on peut trouver dans les foils avec les résines époxy.
Les foils en français, parce qu'on est une radio francophone.
Alors les foils, c'est des planches connectées qui permettent de glisser sur la mer sans voile.
D'accord.
C'est comme des trottinettes électriques sur mer.
D'accord.
Voilà. Et donc elles ont besoin d'être structurées comme les planches en surf. Et donc les renforts de bambou ont une structure très importante. Qui peuvent s'assimiler au tissu de verre, au renfort de verre dans le domaine industriel. Donc là, on est dans l'innovation et la R&D.
R&D quand même appliquée, parce que ce n'est pas vraiment de la recherche fondamentale.
Oui, c'est ça, complètement.
D'accord. Vous avez sur votre approche de maîtrise d'œuvre, mais aussi sur votre cœur de métier qui est mannequin, enfin la sculpture sur cire. Vous avez beaucoup de concurrents. C'est un marché qui pour vous, pour Mickey Blue Factory, est encore très franco-français ou qui s'ouvre. Enfin, là, vous me parlez de Di Rosa Owens. Là, je crois qu'on a déjà répondu à la question, non?
Oui, alors comme je vous l'ai dit, la cire est un matériau qui est quand même assez ancien et c'est un matériau qui s'utilise vraiment beaucoup dans les niches, c'est-à-dire dans le domaine artistique, dans le réalisme, dans l'hyper-réalisme. Donc c'est un matériau que l'on trouve dans des sculptures un peu originales, un peu exceptionnelles. Donc la concurrence, je pourrais vous dire, je ne la connais pas puisque nous sommes dans une niche et il y a des gens qui font très bien cela, mais sur le territoire français, ça reste quand même très 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 réduit, très infime. Les Américains peuvent utiliser cette matière aussi, mais comme Ron Mueck, qui est un artiste américain très important qui utilise le silicone. Mais vraiment, ça reste quand même quelque chose d'assez particulier.
Oui, parce que de toute façon, vous travaillez sur une matière vivante. On travaille sur une matière vivante. Le silicone, c'est une matière inerte. Donc forcément, j'ai envie de dire, c'est plutôt dans les vieilles nations qu'on utilise encore ceci. Alors moi, c'est la question. Vous avez suivi des formations particulières, diplômées de métiers d'art. Vous avez choisi ce matériau, développé une science, la science des matériaux issus justement de votre expérience des différents projets. La transmission se fait comment ?
La transmission...
Du savoir-faire, est-ce qu'il y a...
Je vous l'ai dit, j'ai pris connaissance avec les anciens qui m'ont transmis leur savoir-faire dans le cadre de musées où j'ai intervenu. Mais après, si vous voulez, j'ai fait mon chemin toute seule et par la rencontre des artistes avec lesquels j'ai collaboré, les pièces que je trouvais dans différents musées, j'ai pu affiner ma technique en même temps que je découvrais les pièces. Et je me suis enrichie vraiment personnellement, techniquement parlant, au fur et à mesure au fil des années.
D'accord. Vous êtes toujours sur le Libre Journal des Artisans avec Benoît Aguelon et nous recevons Stéphanie Duboc de Mickey Blue Factory. Vous avez des clients particuliers ou enfin, j'imagine peut-être richissime pour réaliser quelque chose ou vous...
Alors, je travaille beaucoup pour Gilles Barbier, qui est un artiste français qui œuvre dans la sculpture hyper réaliste. Donc, ça fait partie d'un des premiers artistes pour lequel j'ai restauré ses œuvres. J'ai commencé avec lui sur une pièce au jeu de paume. Et depuis, j'œuvre toujours pour différentes pièces qui sont chez des collectionneurs. Donc, c'est en travaillant sur ces. C'est dans la restauration de ces pièces, j'ai rencontré Gabriel Barbier-Muller, qui est un grand amateur d'œuvres d'art, donc qui réside à Dallas. Et là, j'ai restauré l'intégralité de la pièce de Gilles Barbier, donc pour dans un de ces halls d'immeubles. Et là, c'était une expérience fantastique parce que c'était une œuvre en grand format. Et voilà, donc là, ça fait partie d'un des artistes phares de Milky Blue pour lequel nous avons travaillé dans le domaine de la cire.
D'accord. La cire, c'est surtout des œuvres monumentales. Hein. Vous ne rentrez pas dans le détail. Enfin, si vous faites une main de Christ, de nouveau-né, du Christ, de nouveau-né, oui, c'est une petite œuvre. Enfin,
oui,
c'est
ça peut être
élément.
Une petite œuvre. Là, je vous parle d'une œuvre importante au niveau format, parce que c'est une œuvre qui faisait 5 mètres. C'est un grand banquet, donc avec différentes mets culinaires. Il y avait beaucoup de. Donc, moi, j'ai une expertise aussi dans l'hyper-réalisme des faux gâteaux, de la fausse nourriture, false food. Et donc, cette pièce n'était faite que de ce type d'objets. Et donc, je suis intervenue dessus parce que c'était la représentation des plats phares de l'artiste qui l'affectionnait tout particulièrement.
D'accord. Alors, vous maîtrisez forcément l'art du dessin pour pouvoir créer moule, faire
Le
vos
dessin,
créations.
oui, qui fait partie de ma formation, mais oui, on doit connaître vraiment, vraiment
La
comment
géométrie
dire, tout ce
aussi.
qui est la géométrie et tout ce qui est dimensionnel, les différentes facettes pour restituer les formes quand elles sont affectées, quand les sculptures sont détériorées, par exemple en restauration. Donc là, oui, on doit avoir une connaissance du dessin et des formes en
D'accord.
3D.
Donc de nombreux savoir-faire. Vous avez des associés. Vous travaillez en réseau, mais vous avez des associés, des ouvriers. Ça se passe comment?
Alors oui, moi je suis seule à avoir créé cette société, mais je m'entoure avec différentes personnes qui m'aident à œuvrer pour au point de vue commercial, juridique, de la communication. Et j'ai une équipe évidemment de partenaires avec qui j'échange régulièrement selon les projets pour lesquels je dois les solliciter.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous reste 3 minutes à peu près.
Oui.
Vous avez des projets en particulier, peut-être sans dévoiler quelque chose, mais l'avenir de Mickey Blue, les projets futurs, quel type de projet futur, et puis peut-être quel rêve, quelle œuvre. Vous souhaiteriez restaurer ou réaliser?
Alors, je vous cacherai pas que l'expérience que j'ai eue avec la principauté de Monaco, avec la cathédrale en l'occurrence, m'amène à d'autant plus évoluer dans le domaine de la cire, dans le domaine des personnages anciens en cire. Donc là, j'aurais cette volonté, mais à côté de cela, Il est vrai qu'avant les 100 ans en cire de Monaco pour lequel j'ai œuvré, j'ai réalisé une sculpture monumentale pour cette aglopole. Et il est vrai que c'est très intéressant. J'ai une expérience intéressante sur comment dire, la fabrication d'œuvres monumentales. Et j'aimerais aller dans ce sens dans le domaine public, parce que c'est vrai que ça a un impact autre quand il s'agit de grands formats de grands formats dans le domaine public. Et oui, Milky Blue aimerait développer ces deux domaines.
D'accord, mais ça vous fait pas peur les marchés publics parce que c'est quand même avec toutes les histoires de chorus, de se faire payer et tout ça, c'est.
Bah écoutez, en général, c'est les artistes qui choisissent leur équipe.
Oui.
Donc, j'ai toujours eu la chance d'avoir la possibilité à ce que les artistes m'appellent en direct, parce que c'est eux qui imposent, on va dire, leur
D'accord.
équipe technique au niveau des municipalités. Bon, écoutez, pour l'instant, tout se passe bien.
D'accord, très bien, très bien. Alors donc, nous sommes sur Radio Courtoisie, nous achevons notre libre journal des artisans avec Stéphanie Duboc de Milky Blue Factory, Milky Blue. Factory, pour les non-anglophones, étant donné que Radio Courtoisie est une radio francophone. Et donc, on a exploré aujourd'hui la sculpture sur cire, les différentes techniques et tout ça. Comment on fait pour vous contacter si on a des
Alors, j'ai
questions?
un site
Vous
internet,
avez
j'ai
un
un
site internet.
Instagram et
D'accord.
un numéro de téléphone portable que vous pouvez trouver aisément sur le site ou sur Instagram.
D'accord, bah écoutez, parfait, merci beaucoup Stéphanie,
Merci à vous pour votre écoute.
c'était tout à fait passionnant et finalement en fait on retrouve toujours, comment dire, une approche traditionnelle, y compris dans l'art contemporain, parce qu'en tant qu'artisan on a toujours un peu l'impression d'avoir un petit peu des bandits, des faux artisans et on est rassuré d'avoir des savoir-faire qui sont appelés par des artistes contemporains. Donc voilà.
J'en suis ravie.
Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bel été, studieux peut-être, et à très bientôt. Voilà.
À
Merci
très
beaucoup
bientôt.
Stéphanie. Voilà. Alors
Merci beaucoup.
merci. Alors de notre côté, le Libre Journal des Artisans, la prochaine édition aura lieu le samedi 15 août et le vendredi 21 août sur une programmation un petit peu diverse où nous aurons un auteur et pour le 21 août, le vendredi 21 août, une grande gueule, un influenceur, grande gueule de la gastronomie. Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Artisans, dirigé par Benoît Aguelon, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 24 juillet 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.